RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Il est 3h à Jakarta, 20h en temps universel. Depuis Jakarta, RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec des programmes en français.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie, présente le journal, les informations actuelles et les divertissements de l'Indonésie.
Vous pouvez écouter nos émissions sur les ondes courtes de 9,5-200 kHz.
Vous pouvez également écouter nos émissions sur www.voinews.id/french.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.
Bonsoir, chères auditrices et chers auditeurs des quatre points du monde. Voici l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Notre émission sera commencée par le journal, suivi le commentaire et l'histoire d'aujourd'hui. Nous allons également présenter la rubrique Mon Indonésie. La rubrique suivante est le magazine culturel et l'Indonésie en couleur. Avant de terminer cette émission, nous présenterons des musiques indonésiennes. Voilà le programme pour aujourd'hui. Écoutons maintenant le journal et le commentaire.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici donc le journal. Nous commençons avec les titres. Le ministère indonésien des Affaires étrangères continue d'évacuer les touristes étrangers dans les trois Gili. Le ministère indonésien des Affaires étrangères a reçu une visite de conseiller de la sécurité nationale du Myanmar. 51 ans de l'ASEAN, le ministère indonésien des Affaires étrangères est sûr que la centralité va progresser ses membres. La Fondation de l'ASEAN lance un programme d'entrepreneuriat social basé sur la jeunesse pour lutter contre la pauvreté. Et enfin, la coopération entre RRI et la radio thaïlandaise est très importante. Voici le journal complet. Le ministère des Affaires étrangères de la République d'Indonésie, avec une équipe conjointe composée de l'agence SAR nationale ou Basarnas, l'Agence nationale de gestion des catastrophes, BNPB, l'Agence de gestion des catastrophes régionales, BPBD, de Nusa Tenggara Ouest, ou NTB, l'Armée nationale indonésienne, TNI, la police nationale indonésienne et le gouvernement local continuent de mener à l'évacuation de milliers de touristes étrangers qui se trouvaient sur trois petites îles à Lombok, Nusa Tenggara Ouest. Après le séisme de 7 sur l'échelle de Richter qui a eu lieu dimanche le 5 août 2018, selon le communiqué de presse de la ministre des Affaires étrangères, Retno Marsudi, à Jakarta, mercredi le 8 août 2018, ce ministère et l'équipe conjointe ont mené avec succès l'évacuation des touristes étrangers à Gili Trawangan et Gili Air. Ce ministère a également ouvert de services d'assistance ou d'assistance supplémentaire à l'aéroport international de Lombok et au port de Lembeh.
Tim Kemlu juga masuk ke Gili Air karena kemarin kita sudah mengevakuasi hampir semua orang yang ada di Gili Trawangan.
L'équipe du ministère indonésien des Affaires étrangères est entrée à Gili Air car hier nous avons évacué presque tout le monde à Gili Trawangan et Gili Air. Gili Meno n'est pas encore évacué. C'est ce que nous avons commencé aujourd'hui à 8h. Espérons qu'aujourd'hui, nous avons évacué tout le monde sur ces îles. Outre le help desk à Lombok, Mataram, la hotline à Jakarta, nous ajoutons maintenant le help desk à l'aéroport et au port. Selon la ministre Retno Marsudi, l'évacuation des touristes étrangers par le ministère des Affaires étrangères et la réalisation de la demande d'aide provenant de diverses ambassades à Jakarta, y compris le Royaume-Uni, la France, l'Italie, la Finlande, l'Espagne, le Japon, la République tchèque, le Portugal et d'autres pays. En outre, le ministère indonésien des Affaires étrangères a reçu des demandes d'assistance directe de familles ou de relations de touristes étrangères d'Allemagne, de la Grande-Bretagne, des États-Unis, la Belgique, l'Espagne, le Portugal, le Japon, la France, la Grèce, les Pays-Bas, l'Oman et le Koweït via Hotline Foreign Visitor Help Desk du ministère indonésien des Affaires étrangères. La ministre des Affaires étrangères de la République d'Indonésie, Retno Marsudi, a reçu la visite de conseiller national des affaires de sécurité du Myanmar, Taung Tun, au ministère des Affaires étrangères mercredi le 8 août pour discuter de la coopération bilatérale et les derniers développements dans l'état de Rakhine au Myanmar. Elle a dit aux journalistes que l'Indonésie était prête à aider le Myanmar à accélérer la solution des problèmes liés à la Rohingya. C'est pourquoi elle continue d'encourager le Myanmar à ouvrir en fournissant des informations les plus récentes dans l'état Rakhine. Le Myanmar a également exprimé son appréciation pour la construction d'hôpitaux par l'Indonésie dans l'état de Rakhine.
Ya, tadi saya menerima kunjungan National Security Advisor. Jadi kita bicara dengan
j'ai reçu une visite de conseiller à la sécurité nationale. Donc nous parlons très ouvertement des développements là-bas. Je demande qu'on nous donne les dernières informations concernant son développement, comment nous pouvons aider à accélérer la solution du problème. Nous avons beaucoup à discuter, mais nous devons continuer à être ouverts pour que le Myanmar puisse avoir la confiance des autres pays. Ce développement doit continuer à être communiqué et ils apprécient vraiment l'aide à la construction de l'hôpital. Selon la ministre Retno Marsudi, la construction de l'hôpital par l'Indonésie est très appréciée, car elle implique des travailleurs des milieux différents ou inclusifs. Le modèle de développement inclusif sera adapté par le développement à l'avenir de l'état de Rakhine. L'hôpital indonésien, qui a été construit depuis en novembre 2017, devrait être opérationnel à la fin de l'année. L'hôpital indonésien, qui est situé dans le village de Maumbwe, au Myanmar, est une forme de la diplomatie humanitaire internationale, la coopération de communautés de sauvetage d'urgence médicale, MERCI, et la Croix-Rouge indonésienne. La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi, à l'occasion du 51e anniversaire de l'Asie à Jakarta, mercredi le 8 août 2018, a souligné que l'ASEAN continuait de contribuer à la création d'un environnement mondial pacifique et stable à travers sa centralité. Il est également convaincu que l'ASEAN, par sa centralité, est capable de faire progresser tous ses membres et de se développer rapidement. La centralité de l'ASEAN, y compris l'élaboration du concept Indo-Pacifique à l'heure actuelle, a reçu un grand soutien de la part des pays qui ont participé au 51e sommet de l'Asie de l'Est, EAS, à Singapour il y a quelques temps.
Bahwa ASEAN itu berkontribusi banyak di dalam penciptaan atau menciptakan environment yang
la ministre des Affaires étrangères de la République d'Indonésie, Retno Marsudi, à l'occasion du 51e anniversaire de l'ASEAN à Jakarta, mercredi le 8 août 2018, a souligné que l'ASEAN continuait de contribuer à la création d'un environnement mondial pacifique et stable. Cela se sent très bien quand on parle, par exemple, pendant EAS hier. Il semble que tous les pays, presque tous les pays, continuent à soutenir la centralité de l'ASEAN, même dans le développement du concept Indo-Pacifique. Nous sommes également convaincus que l'ASEAN, par sa centralité, est capable de faire progresser tous ses membres et de se développer rapidement. J'ai déjà affirmé, si la centralité de l'ASEAN est soutenue, reconnue par de nombreuses parties, tous nos partenaires, alors ce qui est important pour le maintenir, entre autres, est sur l'unité de l'ASEAN. En outre, Retno Marsudi a déclaré que le 51e anniversaire de l'ASEAN peut être utilisé comme un moment pour réfléchir sur la manière dont l'ASEAN ira après. Elle a ajouté que le défi auquel sont confrontés tous les pays membres de l'ASEAN est de savoir comment maintenir l'ASEAN reste pertinence en accord avec l'évolution de l'ordre mondial. Bien qu'à l'échelle antenne, le défi envisagé est comment les bénéfices de l'ASEAN peuvent être ressentis par toutes les couches de société, à la fois économiquement, politiquement et socialement. Selon Retno Marsudi, l'ASEAN a une très longue histoire pour les pays de l'Asie du Sud-Est. Cette organisation régionale a transformé l'Asie du Sud-Est de région hostile à l'amitié mutuelle, de la région de pauvreté à une région riche d'opportunités et de la zone d'instabilité à des zones avec l'écosystème pacifique stable et prospère. Au-delà de ces relations positives, l'ASEAN accepte souvent la critique car elle est considérée comme lente ou ne peuvent pas répondre aux défis de l'évolution rapide des régions et du monde. Cependant, les critiques reçues par l'ASEAN sont constructives pour rendre cette organisation régionale à être meilleure. La fondation de l'ASEAN, en collaboration avec la fondation de Maybank, lance le programme « L'autonomisation des jeunes à travers l'ASEAN », un programme qui vise à inspirer et à encourager les mouvements de jeunes volontaires dans l'ASEAN. Ce programme cible les jeunes talents pour être des initiateurs de changement et leur offre des subventions en leur fournissant des compétences et un état d'esprit qualifié, et de fournir des micro-subventions de 200 000 dollars américains ou 2,8 milliards roupias. La signature de la coopération s'est tenue mercredi le 8 août 2018, témoignée par le secrétaire général de l'ASEAN, Dato Paduka Lim Jok Hoi, le chef du conseil de surveillance de la Fondation de l'ASEAN, l'ambassadrice Elisabeth P. Buensukeso, et le chef du groupe de Maybank, Dato Mohayani Shamsuddin. L'ambassadrice Elisabeth P. Buensukeso, dans son discours, a déclaré que la Fondation de l'ASEAN était fière de s'associer à la Fondation de Maybank car ces deux organisations ont les mêmes aspirations et objectifs, à savoir pour encourager la génération de changement de Sud-Est et apporter une plus grande prospérité équitable à la communauté de l'ASEAN. Ce programme contribuera grandement à accroître l'interaction entre les différentes parties prenantes de l'ASEAN, réduire la pauvreté et renforcer la communauté de l'ASEAN. Le programme « L'autonomisation des jeunes à travers l'ASEAN » durera un an jusqu'en août 2019 et sera débuté par des ateliers intensifs destinés à 100 jeunes dans les trois premiers pays de destination, à savoir le Cambodge, l'Indonésie et la Malaisie. Les 100 jeunes réaliseront ensuite des projets axé sur quatre domaines spécifiques tels que l'autonomisation des communautés, les arts culturels, la diversité environnementale et l'éducation. Radio République Indonésie et Radio Thaïlandaise ont signé un protocole d'accord à RRI Jakarta mercredi. L'agence de presse nationale de RRI a rapporté que le directeur de RRI, Emrohanuddin, espérait que le protocole d'accord étendrait la portée de l'information Indonésie à la Thaïlande. Il a déclaré que la coopération est importante car RRI fournira des informations utiles à d'autres pays, y compris la Thaïlande. Avant cela, RRI s'est félicité de la présence de la directrice Kin Sak Han Kia et son entourage mercredi matin. Cet événement a été assisté entre autres par un membre du conseil de surveillance de LPPRRI, Dwi Hernuningsi, directeur des programmes et de la production, Suleiman Yusuf, le directeur des services et du développement des affaires, Richard Poik, le directeur de la technologie des nouveaux médias, Radian Gingging, et le chef de diffusion des affaires étrangères, Agung Susatyo. Pendant ce temps, de la Radio Thaïlande, en présence des membres du directeur exécutif de Radio Thaïlande et du département des relations publiques, Valirat Sakompant, le responsable des relations bilatérales, Siriwan Danprida, et coordinateur de projet et de service mondial Sawanya Sangwanbun. Serviteur, c'était le journal de la Voix d'Indonésie à Jakarta.
Les commentaires, le point de vue de RRI World Service, la Voix de l'Indonésie sur des questions actuelles à l'intérieur et à l'étranger.
Chers auditeurs, après le journal, maintenant nous vous présentons le commentaire et pour le titre « Améliorer les transports indonésiens ». L'Indonésie est un grand pays habité par 165 millions de personnes réparties sur les îles indonésiennes. Dans la répartition de la population, l'île de Java est l'île la plus peuplée. Plus la population est dense dans une région, plus de nombreuses dans la communauté. Le système de transport est l'un des problèmes rencontrés par les zones densément peuplées. Les problèmes de transport rencontrés par l'Indonésie, l'un d'eux est le manque de services de transport public. Les transports publics en Indonésie ne sont pas équipés d'installations adéquates. Cette condition rend les gens mal à l'aise avec les services offerts par le transport en commun. Ces conditions font que les gens préfèrent utiliser des véhicules privés plutôt que d'utiliser le transport en commun. Les véhicules privés, d'une part, offrent une souplesse de mouvement aux citadins. Les motos, en tant que mode de véhicule privé, ont même l'avantage de faibles coûts opérationnels. Néanmoins, la dépendance à l'égard des véhicules privés a finalement entraîné une augmentation des embouteillages dans les grandes villes, en particulier dans les villes de Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang et Bekasi. Les embouteillages entraînent des pertes économiques. Dans ces villes, les pertes dues aux problèmes du secteur de transport comme les embouteillages ont éliminé le potentiel d'une croissance économique plus élevée. Selon la Banque mondiale, les habitants de Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang et Bekasi consacrent généralement au moins 3,5 heures à la circulation. La valeur économique perdue dans Zhangnan est de 39 900 trillions rupiah, car le temps qui est perdu, s'il est utilisé pour les activités productives en Nang, peut rapporter à la ville des revenus de 3 milliards de dollars américains ou 39,9 trillions rupiah. Le ministre des Transports, Budi Karya Sumadi, a déclaré mercredi que l'autobus devrait redevenir le moyen de transport préféré des Indonésiens. Sa partie améliorera et augmentera le service de bus pour que le bus redevienne le moyen de transport préféré des Indonésiens. Il a également souligné qu'il faut nécessiter l'intégration des transports en commun qui combine les modes de transport terrestre avec d'autres modes tels que l'intégration des ports, aéroports et ferroviaires. Et ce qui n'est pas moins important pour résoudre le problème de transport national est d'encourager l'adoption du projet de loi sur le système de transport national qui fait actuellement partie du programme de législation nationale au Parlement. L'absence de la politique du système national de transport a entraîné la politique de transport, y compris le développement des infrastructures, est fait partiellement et n'est pas encore résolu. Chers auditeurs, c'était le commentaire pour ce soir.
Les faits historiques que nous présentons à travers aujourd'hui dans l'histoire.
Bonsoir les auditeurs de RRI du Service mondial de la Voix de l'Indonésie. Voici l'histoire d'aujourd'hui, le 9 août. On commence par le 9 août 1919, l'accord iranien et britannique. Le 9 août 1919, un accord entre la Grande-Bretagne et l'Iran a été signé représenté par le premier ministre iranien Wadzakut Daulah et le ministre britannique des Affaires étrangères Lord Curzon. Basé sur l'accord qui est connu sous le nom l'accord de 1919, les affaires économiques, militaires et politiques de l'Iran sont sous la supervision de fonctionnaires britanniques. Les Britanniques ont imposé cet accord à l'Iran après la révolution en Russie qui a conduit le pays à se retirer de l'arène concurrentielle du colonialisme. Mais les Iraniens et la communauté internationale se sont opposés à cet accord et cet accord a finalement été annulé. Un an et demi plus tard, les Britanniques ont orchestré le coup d'État qui a conduit Reza Khan à devenir le chef iranien. Par Reza Khan, la Grande-Bretagne a continué à contrôler l'Iran. Le 9 août 1945, le bombardement de Nagasaki par l'Amérique. Le 9 août 1945, trois jours après l'explosion d'une bombe atomique à Hiroshima, les États-Unis ont encore largué leur bombe atomique sur Nagasaki à la demande du président américain Harry Truman. En un instant, la ville portuaire a été détruite et 80 000 personnes sont mortes. L'impact des matières radioactives de la bombe a également augmenté le nombre de victimes. Le but américain dans cette attaque à la bombe était de vaincre totalement le Japon et de montrer la puissance américaine dans le monde. Six jours après le largage de la bombe atomique sur Nagasaki, le 15 août, le Japon s'est rendu sans condition aux Alliés et a signé l'instrument de capitulation le 2 septembre, mettant ainsi officiellement fin à la guerre du Pacifique et à la Seconde Guerre mondiale. Le 9 août 1965, Singapour s'est séparé de la Fédération de Malaisie. En 1819, par les dirigeants de Johor, Malaisie, Singapour est confié à la Compagnie britannique des Indes orientales. Le 15 février 1942, Singapour était occupé par le Japon. Lorsque le Japon s'est rendu aux Alliés en 1945, le Japon est sorti de Singapour et ce pays est revenu à la colonie britannique. Et en 1963, en raison de la formation de la Fédération de Malaisie, Singapour a été intégré à cette fédération. Mais, le 9 août 1965, Singapour s'est séparé de la Malaisie et a officiellement obtenu la souveraineté. Yusof bin Ishak a été assermenté à la présidence et le Kuan Yew a été devenu le premier ministre de la République de Singapour. Voilà l'histoire d'aujourd'hui.
Indonésiaku, mon Indonésie présente l'Indonésie dans les domaines de l'économie, de la politique étrangère, le Pancasila, des sports et de l'environnement.
Bonsoir, chers amis. Vous écoutez La Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta dans la rubrique Mon Indonésie. Et pour ce soir, intitulé L'agent environnemental du gouvernement provincial de Jakarta installe des outils de surveillance de la qualité de l'air sur le site des Jeux Asiatiques. L'agent environnemental du gouvernement provincial de Jakarta fonctionne la station de surveillance de la qualité de l'air, ou SPKU, pour surveiller la qualité de l'air sur plusieurs sites des Jeux Asiatiques 2018 à Jakarta. Le chef de l'agence environnementale du gouvernement provincial de Jakarta, Isnawa Aji, a déclaré à tribunejakarta.com lundi que SPKU mobile appartenant au ministère de l'Environnement, installé à Wisma Atlet Kemayoran depuis le 2 août jusqu'au 17 septembre 2018, Auparavant, l'hôtel était placé chaque semaine sur la zone de course de chevaux Poulomas et le terrain de golf Pondok Indah chacun pendant une semaine. Isnawa a expliqué que cet hôtel, toutes les 30 minutes, produira des données pour les paramètres PM2,5, CO, NO2, ozone, SO2 et les données météorologiques. Après être collectées, les données sont traitées par le serveur au laboratoire de l'environnement régional. L'agent de l'environnement et à être informé comme l'indice de pollution atmosphérique. Selon lui, cet indice décrit l'état de la qualité de l'air ambiant à certains endroits basé sur l'impact sur la santé humaine et l'environnement. Selon Isnawa Aji, si l'indice de la pollution de l'air ou ISPO montre 0 jusqu'à 5 ans, la qualité de l'air est considérée comme bonne. Ce qui signifie qu'il n'y a pas d'impact sur la santé humaine ou animale. Si l'indice montre 50 ans jusqu'à 100, la qualité de l'air est moyenne, ce qui signifie qu'elle n'affecte pas sur la santé humaine ou animale, mais avoir un effet sur les plantes sensibles. Tandis que les indices 100 ans jusqu'à 199 sont classés comme malsains, ce qui nuit aux humains ou aux groupes d'animaux qui sont sensibles ou peuvent endommager les plantes ou les valeurs statiques. L'indice de 200 jusqu'à 299 est classé comme très malsain, c'est-à-dire une qualité de l'air peut nuire à la santé dans un certain nombre de segments de la population exposée. Cependant, l'indice qui atteint 300 jusqu'à 500 est classé comme dangereux, à savoir la qualité de l'air dangereux et en général peut nuire à la santé de la population, comme l'irritation des yeux, la toux, la phlegme et les maux de gorge. Le résultat de l'indice de la population atmosphérique est régulièrement informé au public tous les jours de 15h. De l'Indonésie occidentale à travers le panneau d'affichage au laboratoire de l'environnement à Jakarta, website Smart City Jakarta et site web du bureau de l'environnement de la province de Jakarta. En plus des stations de surveillance de la qualité de l'air de mobiles, l'agent de l'environnement de Jakarta exploite également 5 unités de SPKU fixes étant reparti à Bundaran HI, Kelapa Gading, Jagakarsa, Lubang Buaya et Kebon Jeruk. Le ministère de l'Environnement et des Forêts a également installé des stations de surveillance de l'air dans la région de Gelora Bung Karno pour surveiller la qualité de l'air de la capitale pendant les Jeux Asiatiques 2018. Chers amis, c'était la rubrique Mon Indonésie de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Thank you.
Les émissions de La Voix de l'Indonésie peuvent également être écoutées via le streaming audio sur le site www.voinews.id/french.
Connaître la richesse de l'art, de la culture et du tourisme indonésien dans le programme Le Magazine Culturel, Pesona Indonesia.
Bonsoir à tous, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le Magazine Culturel. Pour ce soir, nous vous invitons à vous rendre à la place de Manakara à Mamuju, dans la province de Sulawesi du Sud. Restez toujours avec nous, la voix de l'Indonésie, et vous pouvez écouter nos émissions sur www.voinews.id. Mamuju est une petite ville située dans l'ouest de Sulawesi. Son emplacement est particulièrement stratégique car elle est située dans la région du Triangle d'Or de Sulawesi du Sud. Sulawesi Central, Kalimantan Est, Mamuju possède le long littoral du sud de Sulawesi, environ 415 km. L'une des places est très intéressante avec la mer bleue et la plage de Manakara. La place de Manakara possède un beau paysage. La particularité de cette place est le sapin et le sable noir qui s'étend sur plus de 5 km. Elle fait partie du golfe de Mamuju où le port de Batu existe. La place de Manakara est une destination touristique pour les touristes domestiques et aussi les touristes étrangers. Sur cette place, vous pouvez vous détendre tout en regardant la beauté du sable noir. Vous pouvez aussi regarder les bateaux de pêche. Cette place commence habituellement à être visitée à partir de 4h après-midi jusqu'à minuit. Si vous voulez passer la nuit, vous pourrez chercher un logement comme un hôtel ou bien une auberge. Il y en a beaucoup de disponibles dans la ville de Mamuju. De la place de Manakara au centre-ville de Mamuju, cela prend environ 30 minutes. Mais si vous ne voulez pas être en retard pour profiter de la beauté du soleil qui est incroyable, vous pouvez passer la nuit avec une tente installée sur la place. La soirée, la place de Manakara présente également une belle vue parce que le soir, cette place sera remplie par les lumières rouges du ferry qui va jeter l'ancre ou bien acquitter du port de Mamuju. Si vous voulez rapporter des souvenirs à la maison, vous pouvez les acheter aux boutiques de souvenirs ou bien aux stands qui vendent un large éventail d'aliments et de boissons ainsi que des souvenirs typiques de Sulawesi sur cette plage. Vous pouvez également apporter les oranges sucrées qui sont l'un des souvenirs typiques de Mamuju. Il n'est pas difficile pour aller à la place de Manakara. Vous pouvez utiliser les transports en commun ou bien les véhicules de location. Vous pouvez commencer le voyage de l'aéroport de Tampa Padang, Mamuju, Sulawesi Ouest. Ce voyage ne prend qu'environ 30 minutes. Sous Sur la place de Manakara, vous pourrez déguster une variété de collations légères telles que bananes, patates douces, haricots frites, divers autres types d'aliments frites. Et vous pouvez également acheter des aliments tels que le riz frit, le soto, le poisson grillé typique de Mamoudzou. Et si vous venez en août ou bien en septembre, vous pourrez acheter le durian qui est récolté pendant 6 mois. Le prix environ 5000 rupiahs. Si vous êtes à Sulawesi du Sud, comme par exemple dans la ville de Makassar, s'il vous plaît à visiter la place de Manakara de Makassar à Mamoudzou, il n'y a qu'un vol. Bon, chers amis, c'était Magazine Culturel de la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Merci à tous et à bientôt.
Warna-warni, l'Indonésie en couleur, présente les informations sur les femmes, les jeunes et les réussites de l'Indonésie.
Salut chers amis, nous continuons notre émission avec l'Indonésie en couleur. Informant sur l'exposition d'art de la collection du Palais d'État de la République de l'Indonésie. L'exposition d'art de la collection du Palais d'État de la République d'Indonésie s'est tenue à la Galerie nationale d'Indonésie du 3 au 31 août 2018. Sous le thème « L'Indonésie, l'esprit du monde », cette exposition a présenté 45 œuvres de peinture, sculpture, artisanat, cristaux et archives exprimant l'esprit du peuple indonésien, y compris les Jeux asiatiques de 1962. Ces 45 œuvres sont des collections du palais présidentiel de Jakarta, du palais Bogor, du palais Tampak Siring, du palais Yogyakarta, et du palais présidentiel Cipanas. Au total, il existe des œuvres de 34 grands artistes indonésiens et étrangers dont le travail a été recueilli par le palais présidentiel de la République d'Indonésie depuis l'époque de Sukarno. Certains sont l'œuvre de maestros comme Raden Saleh, Basuki Abdullah, Nyoman Gunarsi et bien d'autres. Selon le conservateur de l'exposition, Amir Siddhartha, l'exposition intitulée « L'Indonésie, l'esprit du monde » devrait refléter l'esprit de relations internationales et de la diplomatie culturelle indonésienne dans le passé. L'un d'entre eux est une statue de Lancier par Roberto Juan Capuro qui a été donnée par le président de l'Argentine, Arturo Frondizi au président Sukarno pour renforcer les relations bilatérales. Une autre œuvre exposée était la peinture « Chasser le taureau » de Raden Saleh Sharif Bustaman. Ce travail est un exemple de diplomatie culturelle entre l'Indonésie et les Pays-Bas parce qu'il est fait comme un souvenir pour le roi Willem III avant Raden Saleh est retourné dans son pays natal en 1851. L'amitié entre les nations est également implicite dans la collection de cristal, artiste asiatique d'un cristal, qui a été créée au milieu des années 1950 par la société de verre Steuben. Sur les 36 cristaux de la série, il y a trois œuvres d'artistes indonésiens, à savoir Bima et le Sarpan, par Basuki Abdullah, Danse du Temple, par Agus Jaya, Engaben par Made Jata. Tous les trois étaient soumis par l'ambassadeur américain en Indonésie, Howard Jones, à Sukarno au palais Cipanas le 1er août 1959. En plus de ces œuvres, également exposées des sculptures Alchers, étant ordonnées par Sukarno dans un studio en Hongrie en 1960 et en 1961, qui est un symbole de chevalier de la nation Est et Sud. Outre l'exposition d'art, les visiteurs peuvent également participer à divers événements préparés par le comité. Il y avait un atelier de croquis de Camis Quetzagalnas, un programme d'orientation pédagogique devenu un concepteur d'art et un concours national de peinture pour les étudiants. Toutes les activités sont gratuites, y compris pour profiter de l'exposition. La visite a lieu tous les jours de 10h à 20h temps de l'Indonésie occidentale, sauf à la fête de l'Eid al-Kébir ou Eid al-Adha le 22 août 2018 où l'exposition est temporairement fermée. Et c'est tout l'Indonésie en couleur d'aujourd'hui. Chers amis, un grand merci de votre fidélité d'écouter La Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Avant de terminer cette émission, nous présenterons les musiques indonésiennes. Merci à tous et à bientôt.
Pelangi Nada, le magazine musical, vous présente les musiques et les chansons indonésiennes.
Chers amis de quatre coins du monde, bonsoir. Voici le magazine musical qui présente les musiques pop et traditionnelles de l'Indonésie. Pour ce soir, vous pouvez entendre les chansons d'un chanteur légendaire indonésien, Iwan Fals. Voici sa première chanson intitulée Baccalauréat. Bonne écoute.
Engkau sarjana muda, resah mencari kerja, mengandalkan ijazahmu. Empat tahun lamanya bergelut dengan buku untuk jaminan masa depan. Langkah kakimu
depan halaman sebuah jawatan.
Sekretaris et secrétaire Iwan Fals ou Virgia Wanistanto, né à Jakarta le 3 septembre 1961, est un chanteur de genre ballade ou country. Par l'intermédiaire des chansons, il a photographié la situation sociale de la vie indonésienne à la fin des années 1970 jusqu'à présent et la vie mondiale en général. La critique du comportement d'un groupe de personnes qui était reflétée dans une chanson intitulée « Représentant du peuple » et « Tante Lisa », l'empathie pour les groupes marginalisés, comme par exemple dans la chanson « Siang Seberang Istana » et « Lonteku » ou « Les catastrophes majeures qui ont frappé l'Indonésie » ou parfois « Les catastrophes hors de l'Indonésie ». Comme par exemple, la chanson intitulée « Éthiopie » ont dominé les thèmes de ces chansons. Mais Iwan Fals ne chante pas seulement ses propres chansons, il chante également les chansons d'autres compositeurs. Bon serviteur, on écoute la chanson suivante intitulée « Omar Bakri ». Bonne écoute.
Tanda rekulit buaya. Selamat pagi, berkata Bapak Umar Bakri. Ini hari aku rasa kopi nikmat sekali. Tanda rekulit buaya. Mari kita pergi memberi pelajaran ilmu. Pasti itu murid pengamu mungkin sudah menunggu. Laju sepeda kumbang di jalan berlubang, selalu begitu dari dulu waktu zaman Jepang. Terkejut dia waktu mau masuk pintu gerbang, banyak polisi bawa senjata berwajah garang. Bapak Umar Bakri kaget apa gerangan, berkelahi pak jawab murid seperti jagoan. ke sepeda putut dikebut lalu cabut galang kabut pas pulang. Buset, standing dan terbang. Umar Bakri, Umar Bakri, pegawai negeri. Umar Bakri, Umar Bakri, 40 tahun mengabdi. Jadi guru jujur berbakti memang makan hati. Umar Bakri, Umar Bakri, banyak ciptakan menteri. Umar Bakri, profesor, dokter, insinyur menjadi. Tapi mengapa gaji guru Umar Bakri seperti dikabiri? Jalan berlubang selalu begitu dari dulu waktu zaman Jepang. Terkejut dia waktu mau masuk pintu gerbang, banyak polisi bawa senjata berwajah garang.
Bapak Umar Bakri takut apa gerangan, berkelahi pajawan murid seperti jagoan.
Bapak Umar Bakri takut bukan kepala. Itu sepeda putut dikumpul lalu cabut kalang kabut Bakri kentut mau pulang. Umar Bakri, Umar Bakri, pegawai negeri. Umar Bakri, Umar Bakri, 40 tahun mengabdi. Jadi guru jujur berbakti memang makan hati. Umar Bakri, Umar Bakri, banyak ciptakan menteri. Umar Bakri bikin otak orang seperti otak Habibi. Tapi mengapa gaji guru Umar Bakri seperti dikabiri?
Bakri, Bakri, siapa amat menjadi orang gawat.
Les émissions de La Voix de l'Indonésie peuvent également être écoutées via le streaming audio sur le site www.voinews.id/frenca.
Aksi di putih, mobil dan kumpul, oh jago. gagal dinamatkan bento bento bento.
Asik.
Asik.
Merci d'avoir écouté les programmes en français de RRI World Service, la voix de l'Indonésie.
Suivez nos émissions tous les jours sur les ondes courtes de 9525 kHz. Envoyez-nous vos critiques et suggestions à RRI World Service, la voix de l'Indonésie, RRI au 4e étage, Jalan Medan Merdeka Barat, numéro 4S5 Jakarta 10110 ou PO Box 1157 Jakarta. Vous pouvez également rejoindre sur Facebook The Voice of Indonesia et Twitter @voiindonesia ou bien Instagram voice-of-indonesia.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.